Le journal Pierre Veil, bonjour Pierre.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Face à l'épidémie de coronavirus qui s'étend en Chine, les autorités annoncent de nouvelles mesures, notamment l'interdiction du commerce des animaux sauvages. Dans la province la plus peuplée de Chine, le Guangdong, on impose le port du masque aux 110 millions d'habitants. Chez nous en France, les fêtes du Nouvel An chinois aujourd'hui à Paris sont annulées. Un dispositif sanitaire léger est en place à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à l'arrivée des vols en provenance de Chine. Éric Drouet quitte les Gilets jaunes, lassé d'avoir reçu de trop nombreuses menaces. On écoutera son témoignage. Le droit de suite, comme chaque dimanche dans le journal de 13h. Le Venezuela, Juan Guaido proclamé président par intérim il y a un an. Pourtant, Nicolas Maduro est toujours au pouvoir, malgré le chaos économique et politique. Nous interrogerons Paula Vasquez de Zama, chercheuse au CNRS et spécialiste du Venezuela. Le tennis et l'Open d'Australie, la Tunisienne Ons Jabeur en quart de finale. C'est la première fois qu'une joueuse du Maghreb atteint ce niveau de la compétition dans un tournoi du Grand Chelem. Le ski et le slalom de Kitzbühel en Autriche à l'issue de la première manche. Un Français, Alexis Pinturo, est à la 5e place. Nous serons en direct en Autriche avec Guillaume Batin. Et puis le Prix d'Amérique cet après-midi à Vincennes, course qui a ses admirateurs inconditionnels. Il se recueille près de Bayeux sur la tombe d'un cheval qui a gagné 4 fois cette course Ourasie. Reportage dans ce journal.
France Inter.
En Chine, 56 morts et près de 2000 personnes contaminées. C'est le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus. Elle progresse toujours. Le président chinois Xi Jinping reconnaissait hier que la propagation s'accélère. Il parlait de situation grave. Les autorités chinoises continuent de prendre des mesures pour limiter la progression de la maladie. À Pékin, récit de Dominique André.
La dernière mesure, c'est l'interdiction temporaire du commerce des animaux sauvages en Chine. L'épidémie serait peut-être partie d'un marché de Wuhan où était vendu ce type d'animaux. Pour tenter d'enrayer la diffusion du virus, le gouvernement chinois restreint la circulation des habitants et des véhicules. Dans de grandes villes comme Pékin ou Shanghai, les lignes d'autocars longue distance qui les relient au reste du pays sont suspendues. Les agences de voyage chinoises ont reçu l'ordre de ne plus organiser de voyages de groupe en Chine et à l'étranger. À Wuhan, ville fantôme où 11 millions d'habitants vivent confinés, des haut-parleurs appellent les personnes souffrantes à se rendre rapidement à l'hôpital. Plus de 3 millions de masques sont arrivés aujourd'hui en provenance des Philippines. Les États-Unis ont annoncé qu'ils évacueront mardi prochain leur personnel diplomatique en poste à Wuhan et une partie des expatriés américains par avion de Wuhan à San Francisco. Pour la communauté française de Wuhan, aucune date n'a été annoncée pour une évacuation prévue dans des autobus à Changsha, une ville située à 300 km. Pékin, Dominique André, France Inter.
Une réunion est prévue en fin d'après-midi ce dimanche avec le Premier ministre Édouard Philippe dans le cadre d'un possible rapatriement des 800 Français présents à Wuhan, le foyer de l'épidémie de coronavirus en Chine. Alors justement, en attendant une éventuelle évacuation des ressortissants français, voici le témoignage d'un médecin français à la clinique internationale d'Wuhan, Philippe Klein. Il parle d'une très forte inquiétude face au confinement mis en place par les autorités chinoises.
Il y a une inquiétude qui est importante et qui est colportée par les réseaux sociaux. Et puis les échanges entre amis, cette inquiétude, elle est liée au fait que les centres qui accueillent les patients susceptibles d'être infectés sont extrêmement chargés, ont énormément de travail. On est dans un contexte habituel de médecine de masse en Chine, mais là, c'est exacerbé par cette notion d'épidémie. Au moment où je vous parle, je suis à mon domicile, donc je respecte en partie le confinement. En tout cas, la communauté française respecte ce confinement. La communauté française est dans la peur. Moi, je travaille, donc je suis sorti ce matin pour aller voir mes patients à leur domicile parce que j'ai fermé ma clinique. J'ai constaté que des véhicules circulaient quand même. Je me suis arrêté dans un supermarché qui était ouvert et achalandé. Concernant la réaction sanitaire chinoise ici sur place, il y a eu un phénomène d'épuisement du personnel civil médical et un remplacement de ce personnel par des personnels médicaux de l'armée chinoise.
Voilà le docteur Philippe Klein dans la ville de Wuhan, propos recueillis ce matin par Matteo Maestracci. Le Guangdong, province la plus peuplée de Chine, a imposé aujourd'hui le port port du masque respiratoire à ses 110 millions d'habitants dans l'espoir d'enrayer l'épidémie. En France, chez nous à Paris, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un dispositif sanitaire était en place ce matin à l'arrivée des premiers vols en provenance de Chine avec une dizaine de secouristes. Ils proposent des masques et donnent des conseils, notamment d'appeler le 15 en cas de problème de santé. À l'aéroport, les policiers et gendarmes qui font des rondes portent désormais des masques et des gants en caoutchouc. Quelques affiches avec des consignes sanitaires ont été apposées dans le terminal 2E. Anne Hidalgo, la maire de Paris, annonce que les fêtes du Nouvel An chinois prévues aujourd'hui dans la capitale sont annulées. Un défilé devait se dérouler place de la République et dans les rues du quartier du Marais. Puis la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, annonce que quelques personnes, une dizaine, seront testées aujourd'hui dans le cadre de suspicion de coronavirus. Les résultats sont attendus en fin de journée. Il y a toujours actuellement 3 cas de coronavirus chinois avérés en France. Il a été une des principales figures des Gilets jaunes, Éric Drouet. Eh bien, c'est fini. Le chauffeur-livreur, omniprésent dans les médias, souvent interpellé par la police lors des manifestations de Gilets jaunes, il quitte le mouvement. Yann Gallic, bonjour.
Bonjour.
Il quitte le mouvement après avoir participé à la manifestation vendredi contre la réforme des retraites et il annonce son retrait, Yann, sur sa page Facebook.
Dans cette vidéo diffusée en direct vendredi soir sur les réseaux sociaux, Éric Drouet explique pourquoi il a finalement décidé de quitter le mouvement des Gilets jaunes. Lui qui avait déjà annoncé vouloir faire une pause en avril dernier, cette fois, dit-il, il s'agit d'un retrait définitif.
C'est un magnifique mouvement qu'on a lancé tous ensemble et c'est quelque chose de très beau. Aujourd'hui, là, maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est un choix mûrement réfléchi. Je préfère laisser les gens déterminés sur le terrain. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de rester anonyme. De se mettre en avant, ça apporte plus de problèmes qu'autre chose. C'est quelque chose d'assez risqué parce qu'après on essaye de vous en mettre plein la gueule.
Condamné à des amendes pour des manifestations non déclarées et pour port d'armes prohibées, Éric Drouet évoque aussi les menaces dont il a fait l'objet et les divisions au sein des Gilets jaunes.
On m'a menacé sur ma vie privée de révéler des choses, je ne sais quoi. Je suis très peiné de tout ça, mais j'ai voulu donner mon avis sur les manifestations déclarées. Ça nous faisait pas avancer, que c'était un mal pour le mouvement parce qu'il fallait renouveler le mode d'action. Et que là, on s'enterrait dans quelque chose qui ne marchait pas. Je sais pas si ces personnes-là l'ont mal pris. C'était pas le but voulu et peut-être que si elles l'auraient compris de la façon où j'essayais de l'expliquer, peut-être qu'il n'y aurait pas eu toutes ces guerres, tous ces conflits, etc.
Éric Drouet avait lancé aussi une cagnotte sur Internet pour les Gilets jaunes blessés dans les manifestations. 150 000 euros ont été récoltés, mais certains accusent le chauffeur routier d'avoir gardé cet argent pour partir en vacances ou s'offrir une nouvelle voiture. Éric Drouet dément et il promet que la cagnotte sera bien reversée dans les prochaines semaines.
Éric Drouet qui quitte le mouvement des Gilets jaunes, enquête, reportage de Yann Gallic. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, promet ce matin le retrait immédiat d'une grenade lacrymogène controversée, la GLI F4, régulièrement accusée de provoquer de graves blessures chez des manifestants. C'est ce qu'on appelle très souvent les grenades de désencerclement.
France Inter, le journal de 13h, Pierre Veille.
Le droit de suite, comme chaque dimanche dans le journal de 13h, direction le Venezuela. C'était il y a plus d'un an, le 23 janvier 2019, Juan Guaido, sourire photogénique, jeune député de 36 ans, se proclamait président par intérim du Venezuela. Objectif, bien sûr, évincer Nicolas Maduro, héritier d'Hugo Chavez, élu président en 2018, élection marquée par des fraudes. Écoutez cette déclaration de Juan Guaido il y a un an.
Je jure d'assumer formellement les compétences de l'exécutif national comme président en exercice du Venezuela.
Voilà, Juan Guaido, il y a un an. En ligne avec nous, Paula Vasquez-Ledzama, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS, spécialiste du Venezuela. Vous avez publié chez Buchet-Chastel « Pays hors service, Venezuela de l'utopie au chaos ». Alors, Juan Guaido a reçu le soutien des États-Unis, d'une cinquantaine de pays. Il est en tournée en Europe en ce moment. On l'a vu au forum de Davos, en Suisse, à Londres avec Boris Johnson. Hier, il était reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. À Davos, il a dit « Seul, nous n'y arriverons pas ». Que peut-il espérer de la communauté internationale pour renverser Nicolas Maduro ?
Guaido a monté d'un cran le discours concernant la dénonciation du gouvernement de Maduro, car il incorpore maintenant la question de la dévastation de l'Amazonie vénézuélienne et de la violence occasionnée par les minerais et par l'exploitation de l'or. Donc c'est pour ça qu'il parle maintenant des or du sang, etc. C'est-à-dire qu'il cherche à sensibiliser et à maintenir la pression pour dénoncer dans d'autres aspects les gouvernements de Maduro et surtout essayer de faire monter encore une pression internationale qui était en train de s'éteindre, de se dégrader. Car le temps passe et le pari politique de l'année dernière n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que ça n'a pas marché, son pari, de diviser les forces armées vénézuéliennes et qu'il se replie vers l'option démocratique qui reste dans les pays.
Mais comment expliquez-vous justement que ça n'a pas marché, que Juan Guaido n'a pas réussi à renverser Nicolas Maduro, qui est toujours au pouvoir malgré le chaos économique et politique ?
Je pense qu'il a fait, et l'opposition vénézuélienne, de ce point de vue-là, a été soumise à de nombreuses pressions, mais on a fait de la sorte de ne pas aller vers une confrontation type guerre civile. On a préféré la voie politique. On a préféré essayer de faire des choses, mais qui ne sont pas forcément efficaces lorsqu'on a une dictature si forte dans le pouvoir. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est une érosion occasionnée aussi par la situation interne du Venezuela. C'est un pays en crise et tout le monde est en crise, aussi les opposants et aussi les politiques. Il y a cette question de l'exode massif des millions de Vénézuéliens qui sont partis. Il y a aussi la situation économique qui fait que l'organisation d'un parti politique soit extrêmement difficile s'il n'y a pas de grands soutiens financiers ou d'organisation logistique.
L'élément essentiel, c'est semble-t-il le rôle de l'armée. L'armée ne bouge pas, elle reste fidèle à Maduro. Pourquoi l'armée reste fidèle ? Pourquoi ça ne bouge pas dans les casernes ?
Disons que c'est une armée qui est devenue un bras politique. Il faut comprendre que c'est terminé la séparation de pouvoir au Venezuela et que l'armée, c'est un organe actif du parti politique au pouvoir. C'est-à-dire, c'est une armée qui délibère dans l'espace politique vénézuélien. C'est un acteur politique et c'est le gouvernement lui-même. C'est-à-dire, il y a une fusion difficile de voir de l'extérieur entre les partis politiques qui gouvernent le Venezuela, le gouvernement et les forces armées. C'est-à-dire, c'est tout et la même chose. C'est une trinité qui fonctionne et qui fonctionne très bien et qui, comme je dis tout à l'heure, est financée. Il faut comprendre la manière dont ces trios se financent avec la question de l'exploitation de l'or et des minerais et des ressources des mines vénézuéliennes.
Merci Paula Vasquez-Ledzama, chercheuse au CNRS, spécialiste du Venezuela, qui était en ligne avec nous pour évoquer la situation dans ce pays d'Amérique latine avec un président par intérim proclamé Juan Guaido et un président héritier de Chavez, Nicolas Maduro, qui est toujours en place. La défense de notre environnement en France, avec ses nombreux emballages du quotidien qui ne sont pas recyclables, de plus en plus de marques sous la pression des consommateurs s'engagent à changer leur stratégie. Exemple, c'est l'un des goûters préférés des petits Français, la marque Pompot. Eh bien, elle se verdit aujourd'hui, elle vend chaque année 400 millions de gourdes de compote en France. Or, elles finissent systématiquement ces gourdes à l'enfouissement ou à l'incinération, car elles ne sont pas recyclables. Eh bien, le groupe s'engage à passer à un emballage 100% recyclable. Sandy Dauphin, il a fallu 4 ans de recherche et plusieurs millions d'euros d'investissement.
L'ancienne gourde de compote n'est pas recyclable parce qu'elle est fabriquée avec plusieurs couches de matériaux différents, de l'aluminium et divers plastiques. D'ici 2 ans, l'emballage sera fait à partir d'un seul plastique recyclable, explique Nadia Melverzo, directrice marketing pour la marque Pompot.
Tout l'enjeu pour nous, c'était de trouver une solution qui puisse être recyclable. Donc ça voulait dire passer sur un monomatériau plastique, le polyéthylène en l'occurrence. tout en conservant les propriétés de conservation du produit. C'est un produit qui se conserve un an à température ambiante.
Même problématique pour le tube de dentifrice, un mélange de plastique et d'aluminium. Le géant Colgate vient d'annoncer qu'il passe à un emballage en plastique recyclable, celui utilisé pour les flacons de produits d'entretien. Pour Laura Châtel de l'association de lutte contre les déchets, cette tendance est une bonne nouvelle, mais...
En même temps, spontanément, on pourrait se dire que c'est quand même la moindre des choses de mettre des emballages sur le marché qui sont recyclables. On pourrait aussi les remplacer par des emballages réutilisables ou par pas d'emballage du tout, ou par des beaucoup plus grands conditionnements qui permettraient de réduire les quantités de plastique.
Et de rappeler, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.
Les sports, le tennis, l'Open d'Australie à Melbourne. Novak Djokovic qualifié pour les quarts de finale. Il a nettement dominé l'Argentin Diego Schwartzman, 6-3, 6-4, 6-4. Djokovic affrontera en quart de finale le Canadien Milos Raonic, 35e joueur mondial. Dans le tableau féminin, le parcours exceptionnel de la Tunisienne Ons Jabeur. Elle a éliminé en 8e de finale la Chinoise Qiang Wang. Ons Jabeur est devenue, homme et femme confondus, la première joueuse du Maghreb à se hisser en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem depuis le Marocain Hicham Arazi en 2004 à Melbourne. Ons Jabeur mesure l'impact historique de cette victoire, mais elle a encore du mal à réaliser. Elle le dit au micro de notre envoyé spécial à Melbourne, Fabrice Abgral.
C'est énorme, quoi. Je peux pas franchement croire en ce moment parce que même pendant le match, j'étais en train de rigoler, mais en fait, c'était juste un rêve. Mais j'ai pas l'impression de s'arrêter là. J'ai vraiment envie de continuer plus loin et d'arriver plus loin. J'ai fait un long chemin et c'est pas le moment de s'arrêter. Je vais essayer de rester calme comme j'ai fait aujourd'hui et je pense que ça peut le faire. Et vraiment, j'apprends et je suis contente que j'ai pu faire ça.
Ons Jabeur affrontera en quart de finale l'américaine Sofia Kenin. La Coupe du monde de ski alpin continue ce dimanche à Kitzbühel en Autriche après le super géant et la descente. C'est au tour de l'épreuve dans laquelle les Français ont le plus de chances de briller, le slalom. Ce matin, c'était la première manche du slalom. Et les skieurs français sont distancés. Clément Noël, vainqueur l'an dernier, n'est que 8e. Le premier Français n'a réalisé que le 5e temps. C'est Alexis Pinturo en direct à Kitzbühel. Guillaume Batin, on est un peu déçu quand même.
Absolument, oui, un petit peu de déception sur les visages ce matin des Français qui vont devoir tout donner dans un quart d'heure maintenant pour le début de cette deuxième manche du slalom pour rattraper leur retard. Alexis Pinturo, meilleur Français, 3e l'an dernier, accuse 62 centièmes de retard sur la grande surprise de cette première manche. C'est un jeune Norvégien qu'on n'avait jamais vraiment vu sur les podiums, Lucas Braten. Il a 19 ans, il a signé un temps en 59 centièmes alors qu'il était parti en 34e position sur une piste très abîmé, donc c'est une énorme performance. Quant à Clément Noël, le favori vainqueur ici l'année dernière, il est à 78 centièmes de Braten. Il va falloir qu'ils s'arrachent tous les deux pour espérer le podium et la victoire.
Guillaume Batin, et rendez-vous donc pour la deuxième manche de ce slalom à Kitzbühel. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés d'hippisme. Le Grand Prix d'Amérique se dispute cet après-midi à Vincennes. La course fête ses 100 ans et parmi les chevaux qui ont marqué son histoire, il y a Ourasi, 4 fois vainqueur du Prix d'Amérique, 1986, 1987, 1988 et 1990. Mort il y a 7 ans, Ourasi repose au haras du Gruchy, à 100, près de Bayeux. Les admirateurs veille régulièrement sur lui. Marcelin Robin de France Bleu Basse-Normandie, reportage.
Chaque jour, Annie Jumel fait 16 km à vélo pour se recueillir et entretenir la tombe d'Ourasi. Celle qui se considère comme la nounou du cheval venait tous les jours le chouchouter jusqu'à son dernier souffle en 2013.
Il vous scrutait, il regardait qu'est-ce que vous étiez, hein, si c'était sincère ou quoi. Hein. Il rentrait dans vous. Et après, il y avait un lien qui était très fort. Et moi, rien qu'à son regard, je savais ses humeurs, ses attentes. Hein. On se comprenait rien qu'au regard.
Annie accueille désormais les visiteurs qui viennent voir la tombe d'Ourasi dans le Bessin, des étrangers notamment.
Samedi dernier, j'ai reçu une dame belge venant de Liège. Elle est venue spécialement en pèlerinage parce qu'elle dit que c'est plus qu'un cheval. Et elle reviendra et elle dit, on reviendra plus nombreux.
Cet après-midi, Annie va regarder le Prix d'Amérique pour se souvenir d'Ourasi. Gérard Fortier, un autre mordu, sera lui à Vincennes pour voir la course, son 54e prix d'Amérique. Aucun cheval ne pourra dépasser le champion normand.
4 prix d'Amérique, on n'a jamais vu ça. Et honnêtement, on ne verra jamais ça. Déjà, il stationne à 2 maintenant. Mais à 4, là, c'était... Moi, j'ai eu la chance de voir ses entraînements, surtout à l'approche des Grands Prix, puis tout ça, un cheval extraordinaire.
Le 7 avril prochain, Annie et Gérard prépareront une belle fête pour l'anniversaire d'Ourasi, comme chaque année, pour continuer à rendre hommage à leur héros.
Voilà, le culte Ourasi, reportage de Marcelin Robin. C'est la fin de ce journal.